Notre cause est un secret.
J'émergeais lentement. J'entendais des sons. J'étais dérangé par une lumière maintenant plus forte. Je sentais mes pieds engourdis. Je tentais de me lever lentement, sans faire de bruit, et j'avais l'impression de me tenir debout sur une étendue d'oursin, la petite sirène. Je fis quelques mouvements silencieux, fléchissant sur les pointes, et la souffrance diminua. Alors seulement, passant avec prudence la tête à droite et à gauche, et me rendant compte que la guérite était suffisamment restée dans l'ombre, je parvins à dominer la situation. La nef était partout éclairée. C'étaient les lanternes, mais à présent il y en avait des dizaines et des dizaines portées par les participants qui arrivaient dans mon dos. Sortant certainement du conduit, ils défilaient à ma gauche, en entrant dans le chœur et se disposaient devant la nef. « Mon Dieu, me dis-je, la nuit sur le Mont Chauve version Walt Disney. » Ils ne criaient pas, ils susurraient, mais tous ensemble ils produisaient un bourdonnement accentué, comme les figurants à l'opéra qui murmurent « Rababarro, rababarro ». À ma gauche, les lanternes étaient posées par terre en demi-cercle, complétant avec une circonférence aplatie la courbe orientale du chœur, qui touchait au point extrême de ce demi-pseudo-cercle vers le sud la statue de Pascal. Là-bas avait été placé un brasero ardent où quelqu'un jetait des herbes, des essences. La fumée m'atteignait dans la guérite, me séchant la gorge et me procurant une impression d'étourdissement fébrile. Dans le vacillement des lanternes, je m'aperçus qu'au centre du cœur, quelque chose s'agitait, une ombre mince et très mobile. Le pendule. Le pendule n'oscillait plus dans son lieu habituel, au centre de la croisée. Il avait été suspendu plus grand à la clé de voûte au milieu du cœur. Plus grosse la sphère, plus robuste le fil, qui me semblait un cordage de chanvre ou un câble de métal cordonné. Le pendule était maintenant énorme, tel qu'il devait apparaître au Panthéon, tel qu'y voit la lune au télescope. Ils avaient voulu le rétablir dans l'état où les Templiers devaient l'avoir expérimenté la première fois, un demi-millénaire avant Foucault. Pour lui permettre d'osciller librement, ils avaient éliminé certaines infrastructures, ajoutant à l'amphithéâtre du cœur cette grossière antistrophe symétrique marquée par les lanternes. Je me demandais comment le pendule faisait pour maintenir la constance de ses oscillations, maintenant que sous le pavement du cœur, il ne pouvait y avoir le régulateur magnétique. Et puis je compris. Au bord du cœur, près des moteurs diesel, se trouvait un individu qui, prompt à se déplacer comme un chat pour suivre les variations du plan d'oscillation, imprimait à la sphère, toutes les fois qu'elle fondait sur lui, une légère impulsion, d'un coup précis de la main, d'un effleurement des doigts. Il était en frac, comme Mandrake. Après, en voyant ses autres compagnons, je comprendrais que c'était un prestidigitateur, un illusionniste du petit cercle de Madame Olcott, un professionnel capable de doser la pression du bout des doigts au poignet sûr, habile à travailler sur les écarts infinitésimaux. Peut-être était-il capable de percevoir, avec la semelle fine de ses chaussures brillantes, les vibrations des courants, et de mouvoir les mains selon la logique de la sphère, et de la terre à qui la sphère répondait. Ses compagnons. À présent, je les voyais, eux aussi. Ils se déplaçaient entre les automobiles de la nef, glissaient à côté des draisiennes et des motocycles. Ils roulaient presque dans l'ombre, qui, portant une cathèdre et une table couverte de draps rouges dans le vaste promenoir du fond, qui, plaçant d'autres lanternes, petits, nocturnes, jacassants comme des enfants rachitiques, et d'un qui passait à côté de moi, j'aperçus les traits mongoloïdes, la tête chauve. Les frics mignons de Madame Olcott, les immondes petits monstres que j'avais vus sur l'affiche, chez Sloane. Le cirque était là au complet, staff, police, chorégraphe du rite. Je vis Alex et Denis, les géants d'Avalon, bardés d'une armure de cuir clouté, vraiment gigantesque, cheveux blonds, appuyés contre la grande masse de l'obéissante, les bras croisés, attendant. Je n'eus pas le temps de me poser d'autres questions. Quelqu'un était entré avec solennité, imposant le silence de sa main tendue. Je reconnus Bramanti, seulement parce qu'il portait la tunique écarlate, la chape blanche et la mitre que je lui avais vu arborer ce soir lointain dans le Piémont. Bramanti s'approcha du brasero, jeta quelque chose. Il s'en éleva une haute flamme, puis une lourde fumée grasse et blanche, et le parfum se répandit lentement dans la salle. Comme à Rio, pensais-je. Comme à la fête alchimique. et je n'ai pas d'agogo. » Je mis mon mouchoir sur mon nez et sur ma bouche, comme un filtre. Mais j'avais déjà l'impression de voir deux bras mantis, et le pendule oscillait devant moi en de multiples directions tel un manège. Bramanti commença à psalmodier « Alev bet gimel, dalet he wow, zein eit tet jod, kaf lamed mem nun samek, ajin pesade, kofresh shin teo. » La foule répondit priant « Parmessiel, Pardiel, Camuel, Asseliel, Bramiel, Jediel, Assyriel, Masseriel, Dorchtiel, Ouziel, Kabariel, Ressiel, Simiel, Armadiel. » Bramanti fit un signe, et quelqu'un surgit de la foule, se plaçant à genoux à ses pieds. Un instant seulement je vis son visage, c'était Ricardo, l'homme à la cicatrice, le peintre. Bramanti l'interrogeait et l'autre répondait, récitant par cœur les formules du rituel. « Qui es-tu, toi ? » ?»«
Je suis un adepte, non encore admis aux mystères les plus hauts du tresse. Je me suis préparé dans le silence, dans la méditation analogique du mystère du Baphomet, dans la conscience que le grand œuvre tourne autour de six sceaux intacts, et qu'à la fin seulement nous connaîtrons le secret du septième.
« Comment as-tu été reçu ?»«
En passant par la perpendiculaire au pendule. » »«
Qui t'a reçu ? » ?»«
Un mystique légat. » »«
Le reconnaîtrais-tu ? »
Non, parce qu'il était masqué. Je ne connais que le chevalier de grade supérieur au mien, et celui-ci, le naomètre de grade supérieur au sien, et chacun en connaît un seulement, et ainsi je veux.
Quid facit Sator arepo?
Tenet opera rotas.
Quid facit Satan adama?
Tabat amata natas. Madabas data amata natasata.
Tu as amené la femme?
Oui, elle est ici, je l'ai remise à qui on me l'a ordonnée. Elle est prête.
« Va et attends. »
Le dialogue s'était déroulé en un français approximatif, d'un côté comme de l'autre. Puis Bramanti avait dit
« Frère, nous sommes ici réunis au nom de l'ordre unique, de l'ordre inconnu auquel, jusqu'hier, vous ne saviez pas que vous apparteniez, et vous y apparteniez depuis toujours.
Jurons que l'anathème soit sur les profanateurs du secret, que l'anathème soit sur les sycophantes de l'occulte, que l'anathème soit sur qui a fait spectacle des rites et des mystères. »
Que l'anathème soit.
Anathème sur l'invisible collège, sur les enfants bâtards d'Iram et de la veuve, sur les maîtres opératifs et spéculatifs du mensonge d'Orient ou d'Occident, anciens, acceptés ou rectifiés, sur Misraïm et Memphis, sur les philatètes et sur les neuf sœurs, sur la stricte observance et sur l'Ordo Templi Orientis, sur les illuminés de Bavière et d'Avignon, sur les chevaliers Kadosh, sur les élus Cohen, sur la parfaite amitié, sur les chevaliers de l'Aigle Noir et de la Ville Sainte, sur les Rosicruciens d'Anglier, sur les kabbalistes de la Rose-Croix d'Or, sur la Golden Dawn, sur la Rose-Croix catholique du Temple et du Graal, sur la Stella Matutina, sur l'Astrum Argentinum et sur Téléma, sur le Vril et sur la Tulée, sur tout ancien et mystique usurpateur du nom de la Grande Fraternité Blanche, sur les veilleurs du Temple, sur chaque collège et prieuré de Sion ou des Gaules.
Que l'anathème soit.
Quiconque, par ingénuité, commandement, prosélytisme, calcul ou mauvaise foi, a été initié à la loge, collège, prieuré, chapitre, ordre qui illicement contreferait l'obédience aux supérieurs inconnus et aux seigneurs du monde, qu'il abjure cette nuit même et implore exclusive réintégration dans l'esprit et le corps de l'unique et vraie observance, le tres, templi resurgentes equites synarchici. Le trine est trinosophique, ordre mystique et très secret des chevaliers synarchiques de la Renaissance templière.
Sub umbra alarum tuarum.
Qu'entrent à présent les dignitaires des 36 grades derniers et très secrets.
Et tandis que Bramanti appelait un à un les élus, ceux-ci entraient en habit liturgique, portant sur la poitrine l'insigne de la toison d'or.
Chevalier du Baphomet, chevalier des six sceaux intacts, chevalier du septième sceau, chevalier du tétragrammaton, chevalier justicier de Florian et d'Ei, chevalier de Latanor, vénérable naomètre de la tour Isbabel, vénérable naomètre de la grande pyramide, vénérable naomètre des cathédrales, vénérable naomètre du temple de Salomon, vénérable naomètre de l'Hortus Palatinus, vénérable naomètre du temple d'Héliopolis.
Bramanti récitait les dignités et les nommés entraient par groupe, si bien que je ne parvenais pas à attribuer à chacun son titre, mais à coup sûr, parmi les 12 premiers, je vis Degubernatis, le vieux de la librairie Sloane, le professeur Camestres, et d'autres que j'avais rencontrés ce soir lointain dans le Piémont. Et je crois, en tant que chevalier du tétragrammaton, je vis M. Garamond, grave et hiératique, pénétré de son nouveau rôle, qui, de ses mains tremblantes, touchait sur sa poitrine la toison d'or.